Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bonjour et bienvenue à la fois aux auditrices et aux auditeurs, mais aussi aux internautes qui nous rejoignent. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir sur Radio Spoutnik. Nous allons parler aujourd'hui du sommet de Goa, des BRICS, qui s'est tenu le week-end dernier. Les BRICS, ce groupe de 5 pays, incluant le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, viennent en effet de tenir un important sommet à Goa en Inde. Alors, on dit souvent que les BRICS seraient aujourd'hui sur le déclin, que les différences de vision et d'intérêt en leur sein les mineraient. Mais rien n'y fait. Toutes les conjectures tablant sur leur hétérogénéité, réelle ou supposée, notamment entre les deux puissances dites néo-communistes et les trois puissances dites démocratiques, sont aujourd'hui régulièrement désavouées par les faits. On voit s'affirmer ce qui devient un nouveau forum mondial, un forum alternatif à l'hyperpuissance américaine, elle-même sur le déclin, et ce, alors que les tentatives des altermondialistes de constituer eux aussi une alternative justement à cette hyperpuissance sont sur le déclin, voire ont quasiment disparu. La force des BRICS tient en ce que ces pays ont trouvé un dénominateur commun. L'opposition, tant aux États-Unis qu'à la domination occidentale sur les institutions de l'après-guerre, celles que l'on appelle les institutions de Bretton Woods notamment, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors, en quoi le sommet de Goa est-il une réussite? Sur le plan géopolitique, on notera que la déclaration finale tranche fortement avec celle des récents sommets du G7, mais aussi de celle du dernier G20, qui s'est tenu en Chine, en octobre, à Hangzhou. Sur la Syrie, ensuite, où le terrorisme est clairement ciblé et où l'on sous-entend que Daesh serait l'émanation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. On doit aussi noter l'insistance de faire des Nations Unies le seul arbitre légitime des conflits internationaux, avec un soutien appuyé à l'Inde, au Brésil et à l'Afrique du Sud pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'institution. Et il faut rappeler que qui parle de siège permanent parle aussi de droit de veto dans le cadre de ce Conseil. Bref, un bilan important sur le plan politique qui vient accompagner des mesures tout aussi importantes en économie. Pour en discuter, je reçois maintenant Renaud Bouchard et Mikhaïl Davidov. Bonjour Renaud Bouchard.
Bonjour Jacques.
Alors vous êtes un géopoliticien et vous êtes en train d'achever votre thèse à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour à Mikhaïl.
Bonjour Jacques.
Alors Mikhaïl, je dois faire cet aveu aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Je vous connais depuis très longtemps, plutôt je te connais depuis très longtemps. Tu fus l'un des tout premiers étudiants russes qui vint justement à l'École des hautes études en 1991 et tu es actuellement, si je ne me trompe pas, assistant parlementaire du sénateur Ilya Soumarkhanov au Conseil de la Fédération de Russie.
Tout à fait. Je suis fier d'être une de tes premiers étudiants venus de la Russie, de l'Union soviétique. Et je suis assistant de M. Ilya Soumakhanov, qui est vice-président du Conseil de Fédération, notre chambre haute de notre Parlement, chargée des affaires internationales.
Alors, messieurs, la première question que je voudrais vous poser, et évidemment je m'adresse d'abord à Micha, mais Renaud Bouchard pour intervenir. La première question que je voudrais poser concerne la géopolitique. Le conflit syrien s'est invité au sommet des BRICS, mais aussi d'autres conflits, comme celui latent qui oppose l'Inde et le Pakistan. Alors, comment les BRICS peuvent-ils peser sur ces conflits? Et au-delà, quelle est la relation que les BRICS peuvent avoir avec toute une série de pays tiers? Évidemment, on pense à l'Iran, mais peut-être aussi au Pakistan, voire les pays du Golfe. Micha.
Merci Jacques. Moi je pense que le conflit syrien qui dépasse déjà depuis longtemps les frontières de la Syrie, c'est une tragédie humaine. Et malheureusement, les efforts multiples pour régler ce conflit rencontrent résistance des autres participants de loin ou de près qui sont en train de à mettre l'essence sur le feu, c'est-à-dire essayer de soutenir les différents partis opposants pour que le conflit perdure et surtout pour utiliser ce conflit pour manipuler le jeu de cartes ou le jeu de troncs dans la région et même autour. Moi, je pense que BRICS joue, il doit jouer, et le fait qu'ils ont mentionné le conflit syrien va jouer le rôle positif, politique, encore un forum qui va aider à gérer, sortir de ce conflit.
Renaud. Oui, je reprends, je complète les propos de notre excellent confrère. Ce que je vois, c'est qu'il y a aussi, lors du sommet, il y a une déclaration qui a décrit la position commune des BRICS sur la crise syrienne. Et on sait depuis longtemps que la Chine a maintes fois soutenu la position de la Russie sur la situation en Syrie, tandis que l'Inde, de son côté, a déjà exprimé un intérêt majeur pour l'avènement d'un Moyen-Orient stable. Et en fait, j'aimerais rappeler ici, c'est dans le cadre de la déclaration, une déclaration très précise qui a été faite par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Monsieur Li Baodong, qui a déclaré que la Chine et la Russie occupaient des positions similaires sur les questions internationales et régionales les plus importantes, y compris sur la Syrie et l'Afghanistan. Et ce même, comment dire, diplomate a ajouté que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU poursuivaient une coopération étroite sur les questions internationales et régionales. Et un point qui a retenu mon attention au cours de ce, comment dire, de ce sommet, ça a été la déclaration de Monsieur Modi, la partie indienne, qui a expliqué, en parlant du terrorisme international, qu'il y avait une source de terrorisme, il n'a pas expressément désigné le pays, mais qui était un grand voisin de l'Inde. Tout le monde a parfaitement compris de qui il s'agissait. Alors, ça pose en fait une question qui est extrêmement intéressante, et là je déborde complètement sur les BRICS dans le cadre du domaine géopolitique, c'est qu'il y a en fait un cadre général là-dedans qui est l'organisation de coopération de Shanghai, où tous ces pays, qu'il s'agisse donc du Pakistan, puisque c'est bien celui dont il s'agit, de l'Inde, de la Chine et de la Russie, en fait, sont invités à modérer et à repenser en fait tout un système d'alliance dans un cadre qui est purement économique et financier et qui est justement ce deuxième volet que vous avez abordé, Jacques.
Alors, justement, c'est important. Vous mentionnez ici l'organisation de coopération et de sécurité, ce qu'on appelle le Club de Shanghai. C'est une organisation qui est la première des organisations post-guerre froide. Il faut toujours le rappeler, car aujourd'hui, on vit encore dans un cadre qui est largement l'héritage ou de la guerre froide, ou même de l'immédiate après-guerre. Rappelons-nous, les institutions de Bretton Woods, elles ont été décidées avant la fin de la guerre. La conférence de Bretton Woods s'est tenue alors que l'Allemagne n'avait pas encore capitulé, et le Japon non plus. Donc, on est là en présence peut-être de la première organisation du 21e siècle, et non pas, je dirais, de la survivance des organisations du 20e siècle. Et évidemment, on se pose la question, est-ce que il n'y a pas aujourd'hui une forme de conflit latent entre des organisations qui, d'une certaine manière, sont inéluctablement liées à une vision très antagonique du monde, et des organisations, comme justement l'Organisation de coopération et de sécurité de Shanghai, qui, quant à elles, voient plutôt l'objectif de stabilité, c'est pas un objectif de réunir les uns contre les autres, mais au contraire, d'organiser la stabilité. Micha.
Moi, je pense que, en comparaison avec les pays qui existent de l'autre bout de l'océan, nous sommes très concernés par le fait que les problèmes voyagent à travers notre continent. On sait très bien, si tu mets le feu d'un côté de l'Eurasie, le feu va sortir de l'autre côté de l'Eurasie. Voilà pourquoi, même en prenant en compte les distances qui nous séparent du Moyen-Orient ou d'Afghanistan, certains pays sont assez loin d'Afghanistan, tous les pays sont concernés. D'où vient cet besoin de s'en parler? Parce que même si on a petite querelle entre nous, la plus grande menace, c'est la déstabilisation de nos sociétés qui vient de pousser des terrorismes et d'extrémisme et de xénophobie.
Voilà. Oui, j'abonde tout à fait dans ce sens-là, mais j'ajouterais quand même que dans le cadre spécifique justement des BRICS et puis de cette organisation de coopération de Shanghai, il y a aussi un deuxième élément qui est une sorte de ciment en réalité, et c'est toujours en fait un ciment mais alors purement économique, c'est l'Union économique eurasiatique. Et ça, c'est effectivement aussi un deuxième point particulièrement important. Je crois qu'en Europe de l'Ouest, on ne mesure absolument pas l'importance en fait de ces organisations internationales qui sont parfaitement intégrées, qui sont en fait des organisations continentales, que ce soit donc déjà le groupe des BRICS d'une part, avec deux gros poids lourds démographiques qui sont l'Inde, qui sont la Chine, mais aussi deux gros poids lourds géopolitiques qui sont en fait, du fait de leur nouvelle alliance économique, en fait, la Chine et la Russie. Et ce sont en fait les éléments fédérateurs d'une immense partie d'une zone continentale.
Et pour les adeptes de la géopolitique, je ne rappellerai pas les thèmes de Mackinder, mais enfin, on est dans une vision totalement continentale, avec 22 millions de kilomètres carrés, avec une organisation eurasiatique, avec en fait des masses de population qui sont absolument gigantesques. Et si on les rapporte en fait à ce que représente le monde des BRICS, qui constitue en fait, je n'ai plus les chiffres en tête sous les yeux, mais en fait, on est avec le 1,3 milliard d'habitants qui sont en, comment dire, en Chine, un peu plus d'1,1 milliard d'habitants qui sont en Inde, on a déjà en fait en réalité des éléments extrêmement importants pour pouvoir déterminer et voir en fait la puissance économique et géopolitique que représente ce gigantesque élément.
Alors justement, ce qui vient d'être dit me fournit la transition sur ma deuxième question qui va elle être consacrée à la dimension financière et aux intérêts à la fois communs mais parfois aussi divergents des BRICS. Où en est-on des différents projets de création de banques de développement et de fonds d'investissement? Est-ce que ces projets sont cantonnés uniquement sur le territoire des BRICS ou est-ce que certains de ces projets ne pourraient pas s'étendre vers d'autres pays, les pays des BRICS investissant à ce moment-là dans d'autres régions du monde? Micha.
Moi, je pense que la puissance économique des BRICS, ça relève de vieilles discussions comment tu mesures les richesses. Tu mesures en dollars ou tu mesures en lettres humaines. Et dollars, c'est potentiel d'imprimerie américain ou compteur de compte. Et les êtres humains, c'est potentiel de développement humain, équilibré avec une question d'environnement et tout ça. Voilà pourquoi je pense que l'union des BRICS, c'est l'union naturelle. Il y a des pays qui sont plutôt exportateurs de ressources, il y a des pays qui sont plutôt des usines de l'échelle du pays. Mais je pense que le fait que même après les petits changements qui sont survenus au Brésil, Brésil n'ait pas manqué le rendez-vous, montre que la vraie base d'intérêt économique, d'attente économique.
Non. Alors, il y a une montée en puissance qui est en train de se faire. Quand on parle effectivement des BRICS et puis en fait de la nouvelle réorientation par rapport au système hérité de Bretton Woods, il faut se rendre compte qu'en fait la mise à bas de l'hégémonie du dollar n'est pas encore complètement établie. Et on voit au terme de la déclaration qui a été faite à l'issue du sommet de Goa, notamment en ce qui concerne la réforme du Fonds monétaire international, le bloc a réaffirmé son engagement en faveur d'un FMI fort, financé en fait de manière adéquate et basé en fait sur un système de quotas. Autrement dit, on se rend bien compte, il n'y a qu'à regarder en fait l'état de la monnaie chinoise actuellement, en fait, malgré l'introduction et l'arrivée le 10 octobre dernier de l'inclusion du RMB dans le panier des devises qui constituent les droits de tirage spéciaux, on en est encore avec les BRICS et avec justement cette décision qui a été prise à l'issue de la réunion avec des dirigeants en fait qui ont invité les économies développées d'Europe à respecter encore leur promesse de libérer 2 sièges au sein du conseil de direction du FMI. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait on ne se sépare pas encore exactement complètement des organisations héritées du système de Bretton Woods, mais en fait il y a une montée en puissance qui est en train de se faire, une montée financière qui est, je veux dire, qui n'est qu'en fait dans le fond que le reflet du développement économique de ces pays.
Oui, et là-dessus je voudrais rebondir parce que on connaît évidemment l'immense puissance financière de la Chine, les réserves de la Chine qui sont littéralement énormes au niveau mondial. Il y a aussi évidemment les réseaux bancaires, que ce soit les réseaux bancaires explicites ou les réseaux bancaires implicites. Et on sait très bien que il y a beaucoup de banques chinoises qui passent par Singapour et qui se servent justement d'une base comme Singapour pour démultiplier leurs activités. Il faut rappeler ici que l'Inde est aussi une puissance extrêmement active dans le domaine financier. Et il faut savoir que la tradition financière indienne est très ancienne. Elle date d'avant la colonisation britannique, en réalité. Et donc, je vais reformuler ma question. Est-ce que l'on pourrait avoir, aujourd'hui, l'émergence des BRICS, alors qu'il s'agisse de chaque pays individuellement ou de l'ensemble de ces pays, comme un des acteurs majeurs de l'investissement productif dans le monde et en particulier dans les pays en voie de développement? Micha.
Malheureusement, on veut avoir une chose, mais la réalité toujours nous corrige. Aujourd'hui, je pense que les États-Unis dominent le système financier mondial. surtout les systèmes bancaires. Et vous avez vu plusieurs exemples quand les banques se comportent de façon un peu différente de leur point de vue. Et ils coupent l'accès à les systèmes de dollars, à systèmes de paiement. C'est-à-dire que sans les systèmes de paiement en dollars, les banques n'existent pas.
Oui, mais on a quand même des banques qui maintenant travaillent, non pas en dollars, mais qui peuvent travailler en yuan. Certaines peuvent même travailler en rouble. Donc, c'est en train de changer, cette situation.
Non, mais je pense qu'il y a un changement. Mais si on regarde l'horloge de changement, moi, je disais, c'est à 3h du matin.
Donc, on est au début d'un processus. On est au début d'un processus.
Oui, mais au début du début, mais avec des choses qui sont extrêmement consistantes déjà. Je vais évoquer justement la nouvelle banque de développement qui a été mise en place par les BRICS et qui est destinée à financer, par exemple, on l'a vu avec le dernier sommet de Goa, des projets d'énergie renouvelable, par exemple, au sein des BRICS. On a vu aussi l'émission, par exemple, d'une première série d'obligations environnementales en RMB chinois par cette fameuse NDB. Alors, on pourrait dire écologie. Non, non, beaucoup plus sérieusement que ça, parce qu'il s'agit en fait de toute la reprise d'un procédé de réinvestissement industriel en Chine pour lutter contre la pollution consécutive en fait à une industrialisation
très désordonnée. Il est clair que c'est un sujet politique majeur actuellement
en Chine. Et un sujet financier d'investissement. Et puis un troisième point, j'en aurais juste terminé sur ce point-là, c'est dans le cadre des BRICS, la mise en place de l'accord du fonds de réserve, le Currency Reserve Agreement des BRICS, en fait, qui permet de consolider le filet de sécurité financier global de tous ces pays. Parce qu'en fait, dans ce mur des BRICS, il y a des moellons qui sont beaucoup plus solides que d'autres. On va en mettre deux de côté. Le Brésil, qui est actuellement dans une situation un peu délicate. L'Afrique du Sud, je dirais, qui est, comment dire, un ami invité, mais enfin, avec, il n'y a rien de comparable avec des économies comme l'économie chinoise ou l'économie russe. Et puis, en fait, le seul pays qui, pour le moment, est encore sur la crête de la vague, qui est l'Inde. Voilà. Alors, Narendra Modi a eu à se féliciter effectivement de la situation de quelque sorte d'économie de rattrapage indienne dans laquelle il se trouve actuellement, mais on se rend bien compte en fait qu'il y a derrière tout cela tout un ensemble en fait financier qui est réel. Et s'il y a un point en fait qui n'a pas été abordé à ma connaissance dans le cadre du sommet de Goa, c'est cette énorme structure qui est la Banque asiatique d'investissement qui a été mise en place.
La chaîne.
Ouais, voilà. Et ça,
Ah oui, évidemment, c'est un très gros sujet, et c'est un sujet...
Infrastructure et investissement, c'est bien son nom. Hein.
Tout à fait. Et il y a aussi effectivement le fonds de réserve, et de ce point de vue-là, il faut rappeler justement que le Fonds monétaire international, ne pouvant pas lutter contre la constitution de ce fonds de réserve, a décidé de faire bonne figure devant celui-ci, et a dit, mais voilà, nous allons travailler avec ce fonds de réserve, il va d'une certaine manière limiter les conditions de l'extension de nos activités. Alors, c'est un point extrêmement important, et ça permet de comprendre justement qu'il y a peut-être deux manières de réformer le système international, la manière par la compétition ouverte, institution contre institution, et puis la manière, en créant de nouvelles institutions, d'amener les institutions existantes à évoluer, à coopérer avec les nouvelles institutions, et qu'en réalité, on voit très bien que les BRICS jouent sur les deux tableaux. À la fois la compétition ouverte entre institutions, et puis la coopération possible entre institutions. Mais alors, ça pose évidemment une troisième question. Va-t-on vers un élargissement des BRICS à 5 ans ou 10 ans? Et je vais vous poser une question subsidiaire. Est-ce qu'à votre avis, cet élargissement serait-il souhaitable, Micha?
Moi, je pense que d'abord, il faut s'assurer que BRICS marche. Parce que pour le moment, c'est plutôt les réunions qui ont pas mal de bonnes idées, qui ont certains bons débuts, mais... vous savez que chez nous, on dit qu'il faut que les membres du gouvernement russe arrêtent d'utiliser le futur, le temps futur. Ils parlent à présent. C'est-à-dire qu'il faut voir que les projets qui sont annoncés, sont financés, sont finis. Ça, c'est la première chose. Mais je pense que BRICS est un très bon début, très bonne plateforme. Nous, notre position, nous sommes pour coopération plutôt que compétition. Mais si vous ne coopérez pas avec nous, on sera compétitif. Et troisième chose, sur l'élargissement des BRICS, moi je pense qu'il y a un candidat évident, c'est l'Indonésie.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec peut-être aussi une redéfinition du rôle intérieur. Encore que là-dessus, je vais vous donner en fait un exemple qui est assez important. Le fonds souverain Temasek à Singapour, par exemple, a connu là très récemment en fait des déconvenues extrêmement importantes en faisant des investissements considérables en Chine. En fait, ils ont perdu énormément d'argent. Donc en fait, des deux côtés, on se rend bien compte que dans le cadre du développement économique des BRICS, on est obligé de procéder déjà en fait à une intégration économique purement continentale à l'intérieur de pays déjà qui ont besoin de se connaître et de bien coopérer entre eux. Je pense à la Chine et à la Russie. Voilà, un exportateur de matières premières extrêmement important et un exportateur de produits manufacturés déjà dans une économie de marché. Avec comme nuance, par exemple, le fait que la Chine connaît actuellement un très sérieux ralentissement. Donc là, on va, j'abonde dans votre sens, monsieur, on va vers une réintégration. Alors, la réouverture, l'élargissement des BRICS, oui, bien sûr, il aura lieu fatalement avec effectivement la puissance économique indonésienne, avec très probablement aussi peut-être l'intégration à très court terme de pays comme le Vietnam, comme la Malaisie, voilà, c'est dans l'ordre des choses de toute façon.
Alors, c'est intéressant parce que il y a un pays dont vous n'avez parlé ni l'un ni l'autre, et pourtant, je sais que tu y seras bientôt, Micha, c'est les Philippines, qui parlent de l'intégration de l'Indonésie à terme dans les BRICS, devrait pourtant logiquement se poser la question des Philippines, car on voit bien que si on regarde un atlas. Si on regarde la mer qui borde les côtes sud de la Chine et qui s'étend justement jusqu'à l'Indonésie. Alors, bien entendu, l'Indonésie, c'est la conclusion de cette mer, de ce qu'on appelle la mer de Chine du Sud. Mais il y a un autre pays qui borde, qui jouxte cette mer, c'est les Philippines. Est-ce qu'il ne serait pas logique, d'une certaine manière, d'intégrer à la fois l'Indonésie et les Philippines ?
Ouais, moi je pense qu'il faut regarder le poids relatif, parce que l'Indonésie c'est quoi? C'est 260 millions, 900 milliards de dollars GDP. Les Philippines c'est 100 plus 10 millions qui travaillent à l'extérieur. Ça veut dire que l'économie est plus petite. Surtout que on va voir comment l'autorité politique va survivre leur étape d'existence actuelle avec le président qui fait certains nombre de choses. S'il va perdurer, ça c'est une grande question.
Effectivement. Ceci, il faut rappeler que en termes, je dirais, de déséquilibre de taille, l'Afrique du Sud peut se comparer aux Philippines, alors que évidemment, il est clair que l'Indonésie se comparera beaucoup plus à une version, je dirais, un petit peu plus petite de l'Inde, mais c'est plutôt un pays qui joue dans ce type de catégorie plutôt que dans la catégorie de l'Afrique du Sud. C'est un point intéressant parce que ça pose en fait une question assez fondamentale. Est-ce que les BRICS doivent uniquement rassembler de très grands pays ? Ça serait une solution possible. Hein. Et puis, on a d'autres pays qui vont s'associer aux BRICS, mais qui n'en feront pas partie. Ou est-ce que les BRICS n'ont pas, à terme, vocation pour s'étendre et pour devenir une espèce de communauté économique et politique, bien sûr, où chacun garde son indépendance, mais pour devenir une forme d'intégration économique et politique qui peut inclure de très nombreux autres pays. Renaud.
Je vois deux volets, moi, cette réponse. C'est effectivement une ouverture extrêmement intéressante. Le premier volet qui est, en fait, ça rappellera quelque chose, en fait, aux géopoliticiens, la mise en place absolument évidente d'une nouvelle sphère de coprospérité asiatique économique. Ça, c'est absolument évident. Il y a deux autres pays...
Mais dont le Japon serait exclu, cette fois-ci.
Dont le Japon serait exclu, effectivement.
Ils sont trois à côté.
Oui, et puis, ça laisse de très mauvais souvenirs. Mais enfin, ils sont quand même des voisins obligés. Vous avez d'autres voisins aussi qui sont, effectivement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont, en fait, des géants économiques. Et puis, surtout, le deuxième volet, c'est au fond, avec le Fonds souverain chinois et avec Chine-Afrique, l'association avec le continent africain et des BRICS, de véritables géants économiques potentiels, un qui existe déjà, qui est l'Éthiopie, et puis un autre qui est le géant en fait démographique, qui est le Nigeria, et qui sont, à la différence de l'Afrique du Sud, très probablement, à mon sens, en réalité, dans les 10-15 ans à venir, de très très gros partenaires.
Oui, il est clair que ces deux pays sont aussi frappés par des déstabilisations qui sont importantes. Il y a un troisième pays dont vous n'avez pas parlé, c'est le Kenya. aussi, le Kenya, oui. Où les investissements chinois sont importants et qui apparaît comme plus stable que l'Éthiopie et que le Nigeria.
Moi je pense que de côté des pays africains qui sont mentionnés ici, il faut dire que pour nous l'Afrique, c'est l'Afrique qui vient du nord jusqu'au du sud. C'est 52 pays. Il y a des pays qui sont quand même bon candidat pour coopération avec BRICS. Mais je pense que le dialogue, il faut développer par les étapes. Il faut avoir le format outreach et le BRICS essentiel qui fait le centre de gravitation. Parce que d'abord, malheureusement, moitié des pays africains sont touchés par l'instabilité. Et surtout, il faut que l'establishment qui gère ce pays soit conscient des besoins objectifs et pas conjoncturel de parler avec BRICS.
Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Il est donc temps pour nous de conclure cette émission consacrée aux BRICS. Je signale à toutes les auditrices et les auditeurs, et aussi évidemment aux gens qui nous regardent sur Facebook, qu'il y a des émissions précédentes, en particulier celles sur le FMI et la Banque mondiale, qui peuvent être aujourd'hui réécoutées sur podcast, sur le site de Spoutnik. Elles constituent toutes un complément important à notre émission d'aujourd'hui. À la semaine prochaine sur Spoutnik France.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.